On a parlé de la vie associative avec le mouvement associatif. Il y a quelqu'un qui connaît très très bien la vie associative parce que elle a été anciennement secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie associative. Elle siège depuis très peu à la commission du fonds de soutien en étant présidente suppléante. On a le plaisir d'accueillir Jeannette Bougrabe.
Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs, je voulais d'abord présenter les excuses du président Seudban qui n'a pas pu être parmi vous aujourd'hui, puisque c'est lui le titulaire en fait du fonds de soutien à l'expression radiophonique, fonds qui a été créé, mais comme vous le savez, en 1982, au moment de la libéralisation du paysage radiophonique en France. Le président Seban m'a demandé en tant que suppléante de le représenter et j'ai accepté bien volontiers, même si ce n'était pas moi qui étais prévue au casting, je vous le dis tout de suite. Hein. Je suis que l'invitée de la dernière minute, mais le président Seban a estimé que compte tenu de mes fonctions antérieures, il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, parce que là j'en vois qu'ils sont quand même très jeunes, j'ai été au sein du gouvernement de François Fillon, secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative pendant 2 années. Et j'ai eu le privilège, en tout cas, de pouvoir défendre un principe que vous avez rappelé, Michaël, sur la liberté associative, puisqu'on va fêter les 125 ans de la consécration de la liberté d'association, cette liberté fondamentale qui est due à un député pugnace, le député Bolduc-Rousseau, qui a pu faire adopter, au terme d'une longue bataille parlementaire, cette loi relative au contrat d'association. Et je suis convaincue qu'à l'Assemblée nationale, vous avez prévu des événements pour célébrer cette grande loi républicaine qui est aujourd'hui un principe constitutionnel depuis la fameuse décision du Conseil constitutionnel de 1971 qui a intégré dans le bloc de constitutionnalité le préambule de 1946. Ce séminaire m'a donné l'occasion de revenir un petit peu sur mes années passées. Et du coup, quand j'étais secrétaire d'État, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de soutenir le monde associatif parce que les associations, c'est 1,5 million. C'est 150 000 associations qui emploient 1,9 million de personnes. Un salarié sur 10 en France est employé par le monde associatif. Donc la vision que l'on a du monde associatif qui ne serait pas créateur de richesse est une erreur. Le monde associatif crée de la richesse. Et ce séminaire m'a donné aussi l'occasion de me rappeler que j'ai eu l'occasion de soutenir, parce que je suis berrichonne, une radio associative qui est à Châteauroux, qui s'appelle Balistique, et qui a été créée en 2008 à partir de 3 bénévoles d'une association qui s'appelait Yes We Can, à partir, vous savez, de cette chanson de Will.i.am qui a bercé la campagne électorale de Barack Obama, et qui a une programmation qui est plutôt musicale, et qui sont sur 103.fm. Si vous êtes à côté de Châteauroux, à 30 km de Châteauroux, n'hésitez pas à écouter Balistique, parce qu'il faut être fidèle à ses origines. Et donc, je suis fidèle à mes origines berrichonnes. Voilà. En tout cas, dans ces précédentes fonctions, j'ai pu apprécier, mesurer et défendre le monde associatif dans un programme qui était le programme 183, qui permettait aux associations de vivre, de mener des actions essentielles dans des champs variés qui participent à la cohésion sociale de notre pays. Et vous l'avez dit, et je me permets de le reprendre, qui pallie parfois les carences de l'État, y compris de l'audiovisuel public, car comme vous l'avez rappelé dans la table précédente, quand on ferme des stations, eh bien, il n'y a pas nécessairement de relais, notamment pour des événements, des festivals qui n'ont plus leur relais local de telle ou telle radio publique qui a décidé, pour des raisons économiques, de fermer tout simplement et ne permettant pas de diffuser, en tout cas, cette culture si fondamentale. L'existence des associations est évidemment fondamentale dans une société marquée par des individualismes, marquée par une forme de séparatisme. On parle d'entrisme, on parle d'archipélisation. En fait, les acteurs permettent de créer du lien. Les associations permettent de créer ou de matérialiser cette fameuse citoyenneté économique et sociale, très chère en tout cas au Conseil national de la Résistance. Elles créent des liens, elles brisent les solitudes. Vous avez parlé de la période du Covid, mais elle brise aussi les solitudes où sont enfermés les plus fragiles. On aurait pu parler en fait de ces radios qui sont dans des EHPAD, des radios qui sont à l'hôpital, des radios qui sont dans des prisons et qui permettent en tout cas de permettre le vivre ensemble. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les radios associatives. Mais les radios associatives dépassent le simple cadre de la liberté associative car elles participent à d'autres principes de valeur constitutionnelle. Et c'est pour ça qu'il faut se battre pour les radios associatives. Et comment ne pas citer l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à savoir la libre communication des pensées et des opinions, qui est l'un des droits les plus précieux, l'un des droits les plus précieux de l'homme. Les radios associatives participent également du pluralisme du courant d'expression socioculturel lui-même, qui est un objectif de valeur constitutionnelle, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 septembre 1986, que vous connaissez bien évidemment. Le respect de ce pluralisme est l'une des conditions fondamentales de la démocratie, d'autant que l'on parle à quelques mois d'une échéance électorale qui sera peut-être un tournant pour notre démocratie. La libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, ne serait pas effective si le public, les auditeurs, ne pouvaient pas avoir des moyens de communication qui leur permettraient d'avoir accès à des programmes qui garantissent l'expression des différentes tendances de caractère différent dans un respect, et vous l'avez rappelé également, un impératif d'honnêteté et d'information. Donc je vous renvoie à cette décision du Conseil constitutionnel. Vous comprenez, mesdames et messieurs, je pense aux parlementaires, de l'impératif de soutenir les radios associatives. Parce qu'elles participent à ces libertés constitutionnelles, parce qu'elles participent à la démocratie, parce qu'elles participent à l'état de droit. Le soutien aux radios associatives est d'autant plus important qu'on est dans un moment marqué par une tendance à la concentration dans les médias. C'est un fait. À l'uniformisation de l'offre, on voit dans les grands médias à peu près les mêmes types de formats, la recherche de gains financiers, la performance économique qui se fait parfois au détriment de la qualité des programmes. En tout cas, les radios associatives, par leur diversité en fait, garantissent un véritable et réel pluralisme. Ces radios participent à la vitalité du débat démocratique. Elles sont des lieux d'apprentissage aux médias, mais aussi à la citoyenneté. Je pense que ça, c'est important de le dire. Ces radios participent donc à la vitalité du débat démocratique et elles sont présentes partout en fait. Elles sont présentes en zone rurale, elles sont présentes en zone périurbaine, en montagne, dans les zones insulaires, dans les quartiers de la politique de la ville, et ça c'est important. Et elles sont réparties équitablement sur l'ensemble du territoire, et y compris les territoires ultramarins. Et les services du ministère font un point de vigilance, et les associations aussi, pour accompagner les radios associatives dans ces territoires. Elles donnent la parole aux habitants, elles donnent la parole aux associations locales qui ne trouveraient pas de relais d'expression, aux acteurs économiques locaux et évidemment culturels, et elle permet de manière essentielle à la diffusion d'une information de proximité, au renforcement du lien social et au dynamisme culturel des territoires dépourvus de médias de proximité. Depuis la libéralisation du secteur, les radios associatives, malgré une fragilité, on ne va pas se mentir, ont acquis une véritable légitimité qui s'appuie sur une histoire déjà longue, puisque depuis la décision de François Mitterrand, qui avait lui-même créé une radio associative et qui a été condamné pour cela, la radio Riposte, comme vous le savez, a permis en fait de casser cette chape de plomb qu'il y avait en matière d'audiovisuel et de radiophone. On a bien conscience qu'il y a des fragilités. Et les fragilités, vous le savez, elles tiennent d'une part parce que c'est des bénévoles, même si effectivement il y a des salariés, et aussi parce que le montage financier, le modèle économique des radios associatives est basé sur un financement public, et notamment ce fameux FSRE. Et j'ai compris, même si je n'incarne que la vision administrative, les mois qu'il y a eu l'année dernière au moment du débat sur le projet de loi de finances pour 2026, où avait été annoncée une baisse de crédit de 44%, mais qui a permis, en tout cas grâce à un amendement parlementaire accepté par le gouvernement, de permettre de rétablir les crédits. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que de manière générale, quand on prend depuis la création de ce fonds, depuis 82, il y a toujours eu des crises, en fait. En réalité, c'est la raison pour laquelle il y a sans doute une réflexion beaucoup plus globale à avoir sur... Mais je sais qu'il y a déjà eu des rapports parlementaires sur le sujet, parce que tout le monde se souviendra de la crise en 1986, qui a conduit à ce que des radios associatives ferment, ou encore en 94, ou plus récemment. En tout cas, le financement public, cette modalité économique, a été actée dès 82, en fait, dès la libéralisation du secteur. Au début, il s'agissait en fait d'un prélèvement sur des recettes publicitaires, ce qui permettait de garantir une espèce de stabilité dans le financement, puisqu'à l'époque, on interdisait aux radios associatives d'avoir accès à la recette publicitaire. Alors évidemment, par la suite, on a autorisé avec un plafond de 20% suite à un amendement de Gérard Delfaux d'avoir accès en fait à la publicité. Mais peut-être qu'avoir accès à la publicité perd en liberté en fait, c'est toute la question. Il y a eu un certain nombre d'évolutions législatives et réglementaires qui aujourd'hui est stabilisée. Mais je comprends à chaque fois, compte tenu du contexte budgétaire, à chaque veille de dépôt de la loi de finances crée en fait une inquiétude auprès du monde associatif. Et vous avez raison d'être vigilant. Et en tout cas, ce que j'ai essayé, en tout cas par ma présence, c'était de dire à quel point nous avions conscience, même si effectivement je ne suis que la suppléante du président du fonds, de souligner par mes activités antérieures ou d'autres du rôle essentiel que vous avez et encore plus dans les semaines et les mois à venir.
Est-ce que la commission du fonds de soutien a vocation à préserver l'enveloppe du fonds de soutien? On se souvient d'une intervention du président du fonds de soutien à l'époque des assises de la radio qui avait lieu sous le ministère par Aurélie Filippetti. Est-ce que vous êtes vigilant par rapport aux moyens qui sont alloués à l'enveloppe du fonds de soutien, ou alors vous faites avec l'enveloppe qu'on vous alloue pour distribuer cette enveloppe entre les radios?
On essaye bien évidemment de se battre, mais vous êtes la représentation nationale et en réalité le dernier mot vous revient en fait. L'obligation de réserve qui est la mienne en tant que conseillère d'État fait que normalement je n'ai pas à critiquer ou à porter une appréciation sur des choix qui seront in fine, au dernier mot, appartiendront à la représentation nationale. Mais je peux vous assurer que ce soit le fonds, que ce soit le ministère, est vigilant, mais le dernier mot appartient au gouvernement, appartient à la représentation nationale. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai pu voir des fonctionnaires dévoués, attachés et qui essayent au mieux de faire vivre ces radios qui sont l'expression de liberté constitutionnellement garantie.